Amy Elliott Tune. 5 jours après. Vous pouvez m'appeler Amy des Ozarks? Je suis bien installée à la cachette. Peut-on imaginer non plus adapté? Et je regarde tranquillement les leviers et verrous que j'ai mis en place s'actionner à merveille. Je me suis débarrassée de Nick. Et pourtant je pense à lui plus que jamais. Hier soir, à 22h04, mon téléphone à carte prépayée a sonné. Eh oui, Nick, tu n'es pas le seul à connaître le coup du portable secret. C'était la compagnie d'alarme. Je n'ai pas répondu, bien sûr. Mais maintenant, je sais que Nick est remonté jusqu'à la maison de son père. Indice 3. J'ai changé le code 2 semaines avant ma disparition et j'ai donné mon nouveau téléphone comme premier numéro à appeler en cas d'urgence. Je vois très bien Nick, mon indice à la main, entrer dans la maison poussiéreuse, confinée de son père, et s'escrimer avec le code de l'alarme. Mais le temps s'écoule. Bip, bip, bip. Ils doivent appeler son portable si je suis injoignable. Et c'est bien sûr le cas. Donc, il a déclenché l'alarme. Et il a parlé à quelqu'un à la compagnie d'alarme, de sorte qu'il y a une trace de sa présence dans la maison de son père après ma disparition. Ce qui est bon pour mes affaires. Ce n'est pas infaillible, mais ce n'est pas indispensable que ce soit infaillible. J'ai déjà laissé suffisamment d'éléments à la police pour monter un dossier solide contre Nick. La scène de crime bidonnée, le sang mal nettoyé, les relevés de cartes de crédit. Tout ça, même la brigade la plus incompétente, le trouvera. Noël ne tardera pas à éventer la nouvelle de ma grossesse, si ce n'est pas déjà fait. Ça suffit. Surtout une fois que les flics auront retrouvé l'habile Andy, qui taille des pipes sur commande. Alors tous ces suppléments, ce ne sont que des petits bonus pour le niquer encore plus. Des petits pièges à cons amusants. Ça me plaît beaucoup en tant que femme de pourvoir les pièges à cons. Hélène Abbott fait également partie de mon plan. La plus grande émission de faits divers du câble de tout le pays. J'adore Hélène Abbott. J'adore sa façon d'être protectrice et maternelle lorsqu'elle parle des femmes disparues dans son émission. Et sa méchanceté de chien enragé une fois qu'elle a un suspect, en général le mari dans le collimateur. C'est la voix de l'indignation vertueuse de toutes les femmes d'Amérique. C'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle se charge de mon histoire. Il faut que le public se monte contre Nick. C'est un aspect du châtiment aussi important que la prison, pour Nicky chérie, qui passe tellement de temps à se soucier de savoir si les gens l'apprécient, d'apprendre qu'il est universellement détesté. Et j'ai besoin d'Hélène pour me tenir au fait des évolutions de l'enquête. Les flics ont-ils déjà retrouvé mon journal? Est-ce qu'ils sont au courant de l'existence d'Andy? Est-ce qu'ils ont découvert la majoration de l'assurance vie? C'est ce qu'il y a de plus pénible. Attendre que des imbéciles comprennent ce qu'ils ont sous le nez. J'allume la télé dans ma petite chambre environ une fois par heure, pressée de voir si Hélène a repris mon histoire. Elle est obligée, je ne vois pas comment elle pourrait résister. Je suis jolie, Nick et beau gosse, et j'ai inspiré l'épatante Amy. Juste avant midi, elle apparaît, promettant un dossier spécial sur un ton véhément. Je ne change pas de chaîne. Je regarde la télé d'un air sinistre. « Dépêche-toi, Hélène. » Ou « Dépêche-toi, Hélène. » Nous avons ça en commun. Nous sommes à la fois des individus et des entités. Amy et Amy. Hélène et Hélène. Pub pour des tampons, du détergent, des serviettes hygiéniques, de l'Ajax. On croirait que tout ce que font les femmes, c'est nettoyer et saigner. Et enfin, me voilà. Mes débuts à la télé. Je sais à la seconde où Hélène apparaît, ténébreuse comme Elvis, que ça va être excellent. Quelques superbes photos de moi. Un plan fixe sur Nick avec son sourire insensé qui semble crier « Aimez-moi » à la première conférence de presse. La nouvelle : une battue a été menée sans succès sur plusieurs sites autour de la ville pour retrouver la belle jeune femme qui avait tout pour elle. La nouvelle, Nick s'est déjà tiré une balle dans le pied. Il apparaît sur des photos prises sur le vif avec une femme de la ville pendant une des battues. C'est visiblement ce qui a harponné Hélène. Parce qu'elle est fumasse. Et le voilà, Nick, en mode petit chéri de ces dames, le visage pressé contre celui de l'inconnu, comme s'ils faisaient l'happy hour ensemble dans un bar minable. Quel crétin! J'adore! Hélène Abbott insiste lourdement sur le fait que notre jardin donne sur le Mississippi. Je me demande si l'information a été divulguée. L'historique de recherche de l'ordinateur de Nick, où j'ai fait en sorte que figure une étude sur les boucles et les barrages du Mississippi, ainsi qu'une recherche Google des mots flottaison, corps, fleuve, Mississippi. Pardon, mais je n'y vais pas par quatre chemins. Ce serait possible, improbable sans doute, mais il y a des précédents, que le fleuve entraîne mon corps jusqu'à l'océan. J'ai même eu pitié de moi, en m'imaginant mon petit corps nu et pâle, flottant juste au-dessous de la surface de l'eau, une colonie d'escargots accrochée à ma jambe, mes cheveux traînant derrière moi comme des algues, jusqu'à ce que j'atteigne l'océan et m'enfonce jusqu'au fond. Ma chair délavée s'arracherait par bandes, et je disparaîtrais petit à petit dans le courant, telle une aquarelle, jusqu'à ce qu'il ne reste que les eaux. Mais je suis une romantique. Dans la vraie vie, si Nick m'avait tuée, je pense qu'il aurait simplement emballé mon corps dans un sac poubelle et m'aurait conduite dans un des sites d'enfouissement des déchets qui se trouve dans un rayon de 100 km. Il se serait débarrassé, tout simplement. Il aurait même pris quelques objets à mettre au rebut avec lui. Le grille-pain cassé, que ça ne vaut pas la peine de réparer. Un tas de vieilles VHS qu'il voulait jeter depuis longtemps. Histoire de rentabiliser le voyage. J'apprends à rentabiliser tout ce que je peux, moi aussi. Une fille doit se serrer la ceinture quand elle est morte. J'ai eu le temps de m'organiser, d'emmagasiner un peu de cash. Je me suis donné 12 bons mois entre le moment où j'ai décidé de disparaître et ma disparition. C'est pour ça que la plupart des gens se font attraper dans les affaires de meurtre. Ils n'ont pas la discipline d'attendre. J'ai 10 200 $ en liquide. Si j'avais retiré 10 200 $ en un mois, ça se serait vu. Mais j'ai pris des avances sur des cartes de crédit que j'ai fait mettre au nom de Nick. Les cartes qui allaient lui donner l'air d'un petit menteur cupide. Et j'ai encore siphonné 4 400 $ sur nos différents comptes au fil des mois. Des retraits de 200 ou 300 $. Pas de quoi attirer l'attention. J'ai volé Nick. Je lui ai fait les poches. 20 $ par-ci, 20 $ par-là. Une réserve lente, délibérée. Un peu comme quand on prend la résolution de mettre l'argent de son Starbucks du matin dans une tirelire, à la fin de l'année, on se retrouve avec 1 500 $. Et je volais toujours dans les pourboires quand j'allais au bar. Je suis certaine que Nick pensait que c'était Go, et que Go pensait que c'était Nick. Mais ni l'un ni l'autre ne disaient rien, car ils étaient trop désolés pour l'autre. Mais bref, je fais attention à l'argent. J'en ai assez pour continuer à vivre jusqu'à ce que je me tue. Je vais me cacher assez longtemps pour regarder Lance Nicholas Dune devenir un paria d'envergure planétaire, regarder Nick être arrêté, jugé, traîné en prison, hébété, dans un survêt orange menotté au poing. Regarder Nick se tortiller, transpirer et jurer qu'il est innocent, et se faire quand même coincer. Puis je longerai le fleuve vers le sud, et j'irai rejoindre mon corps, le corps fictif de l'autre Amy, dans le golfe du Mexique. Je m'embarquerai pour une croisière festive, ce qui me permettra de rejoindre le grand bain sans avoir besoin de montrer trop de paperasse. Je boirai un grand shaker glacé de gin, j'avalerai des somnifères, et quand tout le monde aura le dos tourné, je me laisserai tomber par-dessus bord en silence, les poches pleines de cailloux, comme Virginia Woolf. Cela demande de la discipline, de se noyer. Mais de la discipline, j'en ai à revendre. Mon corps ne sera peut-être jamais découvert. Ou bien il fera surface des semaines, des mois plus tard, tellement dégradé que ma mort ne pourra pas être datée. Et je fournirai ainsi la preuve ultime qui me garantira qu'on accompagne Nick à sa croix, la table de prison, où il se fera injecter du poison et mourra. J'aimerais bien tenir assez longtemps pour le voir mort, mais vu l'état de notre système judiciaire, cela risque de prendre des années. Et je n'en ai ni le temps ni l'énergie. Je suis prête à aller retrouver les Hope. J'ai déjà fait un petit écart de budget. J'ai dépensé environ $500 en babiole pour enjoliver ma cabane. Des bons draps, une lampe correcte, des serviettes qui ne tiennent pas debout toutes seules. Mais je tâche d'accepter ce qu'on me donne. Il y a un homme, quelques cabanes plus loin, un type taciturne, un hippie qu'on croirait échappé de Grizzly Adams version archi-écolo. Barbe longue, bague turquoise et guitare dont il joue parfois sur le perron le soir. Il dit s'appeler Jeff, tout comme je dis m'appeler Lydia. Nous nous sourions seulement en passant. Mais il m'apporte du poisson. Deux ou trois fois maintenant, il m'a apporté un poisson, fraîchement pêché, mais écaillé et étêté. Il me l'offre dans un énorme sac de congélation, plein de glace. « Poisson frais !» dit-il, en frappant à la porte. Si je n'ouvre pas sur le champ, il disparaît et laisse le sachet sur mes marches. Je fais cuire le poisson dans une poêle correcte que j'ai achetée dans un autre Walmart. Ce n'est pas mauvais, et c'est gratuit. « Où est-ce que tu trouves tout ce poisson ?» je lui demande. « Dans l'aquarium, » il répond. Dorothy, qui tient l'accueil et m'a déjà prise en sympathie, m'apporte des tomates de son jardin. Je mange les tomates qui sentent la terre et le poisson qui sent le lac. Je me dis que, d'ici à l'an prochain, Nick sera enfermé dans un endroit qui ne sent que le renfermer. Des odeurs fabriquées, déodorants, vieilles godasses et féculents, matelas moisis. Sa peur la plus terrible, son cauchemar privé, il se retrouve en prison, il sait qu'il n'a rien fait de mal, mais il est incapable de le prouver. Les cauchemars de Nick ont toujours tourné autour du fait d'être floué, d'être piégé, d'être victime de forces sur lesquelles il n'a aucune prise. Quand il fait ce genre de rêve, il se lève toujours. Il fait les 100 pas dans la maison, puis enfile des vêtements et sort errer dans les rues voisines, dans un parc. Un parc du Missouri, un parc de New York, à sa guise. C'est un homme d'extérieur. Même si ce n'est pas exactement un passionné des grands espaces, ce n'est pas un randonneur, pas un campeur, il ne sait même pas faire un feu. Il serait incapable d'attraper un poisson pour me l'offrir. Mais il aime bien pouvoir, il aime bien avoir le choix. Il a besoin de savoir qu'il peut sortir, même s'il choisit à la place de rester sur le canapé pour regarder l'ultime combat pendant 3 heures. Je m'interroge quand même sur la petite pute, Andy. Je pensais qu'elle tiendrait exactement 3 jours, après quoi elle ne résisterait pas à la tentation de se confier. Je sais qu'elle aime partager ce qu'elle a dans la tête, car je suis amie avec elle sur Facebook. Mon nom de profil est inventé. Madeleine Elster. J'ai piqué la photo dans un pop-up publicitaire pour les crédits immobiliers. Une blonde souriante qui bénéficie de taux d'intérêt historiquement bas. Il y a 4 mois, Madeleine a demandé Andy comme ami, au hasard, et Andy, comme un malheureux chiot, a accepté. Aussi connais-je fort bien la petiote, ainsi que ses copines qui s'enthousiasment pour la moindre petite broutille, qui font souvent la sieste, adorent le yaourt grec et le pinot grigio, et aiment le faire savoir. Andy est une fille sage, c'est-à-dire qu'elle ne poste pas de photos d'elle en train de faire la fête. Ni de messages lascifs, et c'est dommage. Lorsque ça se saura qu'elle est la maîtresse de Nick, j'aurais préféré que les médias dénichent des photos d'elle en train de descendre des shots, de rouler des pelles à des filles, ou de montrer son string. Ça cimenterait plus facilement son image de briseuse de ménage. Qu'elle est. Briseuse de ménage. Mon ménage était certes branlant, mais pas encore détruit. Lorsqu'elle a commencé à embrasser mon mari, à fourrer sa main dans son pantalon, à se glisser au lit avec lui, à prendre sa bite dans sa bouche, jusqu'à la garde, pour qu'il ait l'impression d'en avoir une énorme à la faire suffoquer, à se faire enculer bien profond, à se faire éjaculer sur le visage et les nichons, puis à lécher son foutre, miam. À recevoir résolument, c'est son genre. Ils sont ensemble depuis plus d'un an. Ils ont passé chaque fête ensemble. J'ai épluché ses relevés de cartes de crédit, les vrais, pour voir ce qu'il lui a acheté pour Noël. Mais il a fait preuve d'une prudence stupéfiante. Je me demande ce que ça fait d'être une femme dont le cadeau de Noël doit être acheté en liquide. C'est libérateur. Être sous les radars pour une fille, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'appeler le plombier, d'écouter son homme râler à cause du boulot, de lui rabâcher de penser à rapporter des croquettes pour le chat, bordel. J'ai besoin qu'elle craque. J'ai besoin. 1. Que Noël parle de ma grossesse à quelqu'un. 2. Que la police trouve le journal intime. 3. Candy parle de leur liaison. J'avais des préjugés. Je pensais qu'une fille qui poste des statuts sur sa vie 5 fois par jour, au vu et au su de tous, n'aurait aucune compréhension réelle de l'essence du secret. Il lui est arrivé d'évoquer mon mari de manière voilée sur sa page. « J'ai vu M. beau gosse aujourd'hui. »« Oh, raconte !»« Alors, on le rencontre quand, cet étalon ?»« Bridget aime ce statut. » »« Un baiser d'un mec canon et tout va mieux. »« Trop vrai !» Alors, quand est-ce qu'on le rencontre, monsieur Canon? Bridget aime ce statut. Mais elle a fait preuve d'une discrétion surprenante pour une fille de sa génération. Elle est sage, pour une pouffe. Je l'imagine parfaitement, son visage en forme de cœur, incliné sur le côté, le front doucement plissé par l'inquiétude. Je veux juste que tu saches que je suis de ton côté, Nick. Je suis là pour toi. Elle a dû lui préparer des cookies. Les caméras d'Hélène Abbott sont maintenant sur le QG des volontaires, qui fait un peu miteux. Une envoyée spéciale explique que ma disparition a bouleversé l'existence de cette petite ville. Et derrière elle, je vois une table chargée de petits plats maison et de gâteaux pour ce pauvre Nicky. Même maintenant, ce connard a des femmes pour s'occuper de lui. Des femmes avides qui voient une ouverture. Un bel homme vulnérable. Et bon, ok, il a peut-être tué sa femme, mais ça, on ne le sait pas. Pas avec certitude. Pour l'instant, c'est un soulagement d'avoir un homme pour qui préparer des petits plats. C'est l'équivalent chez les quadragénaires de passer à vélo devant la maison du joli garçon du lycée. On voit de nouveau la photo du grand sourire de Nick, prise avec un portable. Je m'imagine parfaitement la salope provinciale dans sa cuisine solitaire scintillante, une cuisine trophée, financée avec sa pension alimentaire, en train de préparer et de faire cuire sa pâte tout en ayant une conversation imaginaire avec Nick. Non, j'ai 43 ans en fait. Non, vraiment, je vous le jure. Non, je ne suis pas poursuivie par des hordes d'hommes, pas du tout. D'ailleurs, les hommes d'ici ne sont pas très intéressants dans l'ensemble. J'ai un accès de jalousie à l'égard de la femme qui est joue contre joue avec mon mari. Elle est plus jolie que moi telle que je suis maintenant. Je mange des Kit Kat et je me laisse flotter dans la piscine pendant des heures sous un soleil brûlant. Le chlore rend ma peau aussi glissante que celle d'un phoque. Je suis bronzée, ce que je n'ai jamais été auparavant, du moins pas à ce point-là. Un bronzage sombre, profond, fier. Une peau bronzée est une peau abîmée et personne n'aime les filles à la peau fripée. J'ai passé ma vie enduite d'écran total. Mais je me suis laissée foncer un peu avant ma disparition, et à présent, au bout de 5 jours, je suis presque brune, comme un fruit mûr, dit cette vieille Dorothy, qui tient l'accueil. « Tu es brune comme un fruit mûr, ma fille, » dit-elle avec délice lorsque je viens payer le loyer de la semaine prochaine en cash. J'ai la peau foncée, ma coupe au bol brunâtre, mes lunettes d'intello. Au cours des mois qui ont précédé ma disparition, j'ai pris 6 kilos. Soigneusement dissimulée sous d'amples robes bains de soleil, même si mon mari inattentif ne risquait pas de remarquer. Et encore 1 kilo depuis. J'ai fait attention à ne pas me faire prendre en photo dans les mois qui ont précédé ma disparition, de sorte que le public ne connaisse que la version pâle et mince d'Amy. Ce n'est plus du tout moi, c'est certain. Parfois je sens mes fesses remuer toutes seules quand je marche. Se tortiller le popotin, c'est ça qu'on dit ? Je n'en aurais jamais eu les moyens auparavant. Mon corps était une économie superbe, parfaite. Chaque trait était calibré, parfaitement harmonieux. Il ne me manque pas. Ça ne me manque pas, les hommes qui me regardent. C'est un soulagement d'entrer dans une supérette et de ressortir sans qu'un clampin en chemise à carreaux sans manches me lorgne en laissant échapper à voix basse une quelconque remarque misogyne qui lui vient comme un rot chargé de fromage à nachos. À présent, personne n'est grossier avec moi. Mais personne n'est gentil non plus. Personne ne se donne tellement de mal. Pas vraiment, pas comme autrefois. Je suis le contraire d'Amy.